Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour le 15e épisode du CKB Show. Et oui, c'est déjà le 15e et ça veut dire que ça fait déjà plus d'un an que vous nous suivez pour les plus anciens. Et je vous en remercie. Et c'est grâce à vous que le podcast perdure dans le temps. Et grâce à vos partages, vos likes, vos suivis sur tous les sites communautaires. Donc, on vous remercie. Pour m'accompagner, comme toujours, je suis avec Thomas, qui est, lui, très en forme et très réveillé aujourd'hui. Salut Thomas, comment vas-tu?
Salut Nico, ça va très bien. Ouais, en effet. Donc là, on a inversé un peu les rôles. Donc, c'est toi qui te lèves tôt et c'est moi qui veille ce soir.
Je me suis levé super tôt, un week-end en plus, t'imagines même pas la douleur pour moi.
Et ouais, je sais. D'habitude, c'est moi qui suis à ta place, donc je sais très bien ce qu'il en est.
Donc t'imagines. aujourd'hui, Thomas, je te propose qu'on aille faire un petit tour du côté des news sur Chromebook et Chrome OS, parce qu'il y en a eu des tonnes. En l'espace d'un mois, on a été très très gâtés. C'était un petit peu Noël avant l'heure, ou un Noël qui est passé après l'heure, on sait jamais, enfin on ne sait pas dans quel sens on est, mais on a été très gâtés. Est-ce que toi tu as vu des choses qui t'ont plu? Est-ce que tu vas nous parler de trucs intéressants, sympas, jovial et pas trop dramatiques et qui font peur à tout le monde?
Bah en fait, je vais te dire tout à la fois, parce que je vais te parler de trucs sympas, je vais te parler de trucs jovial et je vais aussi te parler de trucs qui font peur. On a en effet pas mal de news là pour le mois dernier, et avec Google I.O. d'ailleurs, au passage, dont on parlera tout à l'heure, qui s'annonce. Je pense que les nouvelles pour les Chromebooks cette année, c'est loin d'être terminé, mais on a quand même beaucoup de choses à vous raconter pour ce qui est de l'actualité du mois d'avril, ou en tout cas du mois de mars et du mois d'avril. Et puis bon, alors je sais pas si vous avez entendu, mais à moins de vivre sous un caillou, vous savez que Facebook a eu quelques petits soucis en ce moment, et on s'est dit que c'était peut-être aussi l'opportunité de se poser la question de la vie privée et des données, et en particulier des données à travers les Chromebooks. Donc il y a quand même un certain nombre de choses à dire, et on s'est dit qu'on allait par l'intermédiaire de news, donc c'est pas vraiment un dossier, mais c'est les news du moment, vous donner quelques petits tuyaux et quelques petites choses à penser pour vous assurer que votre vie privée est protégée comme vous le souhaitez. Mais on a aussi des choses à dire côté matériel et côté logiciel, donc on va se lancer, Nico.
Un petit coup, parce que là, il y en a à dire, hein, franchement. Moi, j'ai deux, trois trucs qui m'ont vraiment beaucoup plu. On va en parler. D'ailleurs, je te lance direct parce que tu es un fan, je sais. Tu as vu Apple, ils ont lancé un nouvel iPad.
Ouais, je rigole parce que j'ai vraiment l'impression que, en fait, on parle d'Apple à chaque épisode. Là, on fait même pire que d'habitude, on commence carrément avec une news Apple. Enfin, c'est quand même assez ironique, mais bon. Pourquoi est-ce qu'on vous parle? Comment?
C'est pour les démonter un coup.
Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on vous parle d'Apple? Pour les critiquer, mais aussi pour vous dire que, donc, Apple a fait une annonce au cours des semaines dernières. Donc on vous en parlait rapidement, en fait, au cours du dernier épisode. On était à quelques jours du lancement, quelques jours de l'annonce d'Apple. Donc en fait, ils ont annoncé dans une école dans l'Illinois, je crois, près de Chicago, si je me rappelle bien, le lancement du nouveau, Chromebook, du nouvel iPad, parce que Apple fait des iPads et des MacBooks qui font pas encore de Chromebook, qui sait, peut-être un jour. Donc ils ont lancé un nouvel iPad qui est en fait une version un petit peu mini, ou une version un petit peu réduite de l'iPad Pro, donc qui était le meilleur iPad de chez Apple. Avec entre autres le support du Pencil, je sais plus comment ça s'appelle, l'Apple Pencil, ou je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, qui est le stylet en fait de l'iPad.
Nous on le fait avec moins de style, on dit Pencil.
Le Pencil. Oui,
mais toi, je comprends ton accent tout bizarre américain là.
Pardon, il y a plein de gens qui ont haussé les sourcils du coup quand j'ai dit Pencil. Donc, l'Apple Pencil, qui est donc supporté par ce nouvel iPad d'Apple. Mais cet iPad-là est quand même beaucoup plus accessible du point de vue prix que l'iPad Pro, puisqu'on parle de, alors j'ai plus trop les prix en tête, en particulier en euros, mais tu vas me rappeler ça, Nico?
359 euros,
voilà. Donc voilà.
Sans l'Apple Pencil.
Le Pencil. On rajoute 99 dollars, c'est ça?
99 euros en dollars, je sais.
Euros, ouais, c'est ça.
Aux États-Unis, ils ont même la possibilité. Donc, Apple s'est associé avec Logitech pour avoir un équivalent à 49 euros. Donc, a priori, moins performant, avec peut-être. Enfin, j'ai pas trop suivi ceci, mais ils l'ont annoncé en même temps. Donc, celui d'Apple et celui de Logitech, mais il n'est vendu qu'aux États-Unis. Donc, en France, c'est mort. Enfin, dans tout le reste du monde, c'est mort. Pas de Logitech, pas de stylo Logitech en dehors des États-Unis.
Ouais, donc voilà. Donc c'est vrai que bon, on vous parle à chaque fois d'Apple bah, en tant que compétiteur, mais on vous dit aussi que bah il y a un marché qui a longtemps appartenu à Apple, qui est le marché éducatif. Et l'arrivée des Chromebooks bas de gamme, ou en tout cas d'entrée de gamme, a beaucoup aidé Google, enfin, a beaucoup fait du mal à Apple et s'est emparé, en particulier en Amérique du Nord, du marché de l'éducation. J'ai l'impression que cette phrase-là, je l'ai dit quasiment à chaque épisode.
Ça, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai.
Mais c'est vrai, donc voilà, donc là, cet iPad qui a priori est quand même un iPad de très bonne qualité. Alors moi, l'iPad, ça fait partie des rares appareils électroniques que enfin, des rares appareils high-tech que je n'ai pas ou que je n'ai jamais eu. J'ai jamais possédé d'iPad. Donc je t'avoue que je suis pas forcément super super calé sur la question. Mais a priori, il semblerait que ce soit vraiment un iPad à la fois de très bonne qualité, de très bonne facture et en même temps bah, assez accessible par rapport à ce qui se fait. Je vois que donc l'article de MyChromebook qui détaille cette annonce le met en face de l'Acer Chromebook Tab 10. Donc on a là
Ouais.
une parfaite transition pour parler de cet Acer Chromebook Tab 10. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous dire un petit peu ce qu'il en est?
Alors ouais, c'était assez amusant d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu. Donc Apple sort son iPad, fait une super présentation qui plus est n'était pas diffusée en direct. Hein. Pour une fois, Apple n'a pas dit oh, attendez, on a un super truc, écoutez-nous en direct sur tous les Apple TV et compagnie. Donc c'était un petit peu en loose day, enfin pas en loose day, mais en comité réduit puisque on pouvait le voir une fois terminé en replay, mais il n'y avait pas eu de direct, alors du coup, je sais pas si c'est du replay. Une semaine après, on ne sait pas pourquoi, Acer dit, ah ben nous, on a une tablette qui fonctionne sur Chrome OS. Bon, figurez-vous que notre tablette à nous, elle fait 9,7 pouces, bon, ben comme l'iPad, elle a une définition d'écran 2048 par 1536, bon, ben comme l'iPad, et elle fait du 264 ppp. Comme l'iPad. Bon, voilà, le tableau est posé, les bases sont là, et derrière, ben nous aussi on a un processeur propriétaire, on est sur du Oppo One, donc le processeur Google. Mais oh, tiens, mon écran qui vient de s'éteindre, je ne sais pas si je suis toujours là. Oui, je suis toujours là. Comme iPad, eh ben on a un écran propriétaire, comme un écran propriétaire, un processeur propriétaire. Eux, iPad, ils sont sur un A10. Alors moi, je suis pas très au fait non plus comment ça s'appelle, des produits à iPad. Alors je me suis renseigné quel était le A10 Fusion, quel était l'intérêt d'avoir mis celle-ci. A priori, c'est le coût puisque c'est l'ancienne version, la version 2017, je dirais. Des
D'accord.
processeurs Apple. Hein. A priori, on est au A11, donc ce serait un peu moins performant que celle d'aujourd'hui, mais bon, c'est celui de l'année dernière, c'est déjà très performant. Enfin, je vais pas critiquer Apple pour ça. Donc en fait, en face, on a vraiment un concurrent complet entre l'iPad et l'Acer Chromebook Tab, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et surtout, c'est la première tablette tactile sous Chrome OS. Ça, c'est juste exceptionnel. On s'en doutait un petit peu, hein. Je sais pas si toi et les auditeurs avaient vu le marché venir, mais on en avait parlé, tout devenait tactile sur les Chromebooks.
Ouais, je pense que tu
Et
l'as
du
dit,
coup.
on a vraiment vu bah, en particulier, tu vois, on ne fête pas tout à fait nos 1 an, mais c'est vrai que ça fait quasiment 1 an qu'on parle de Chromebook sur ce podcast-là. On a vraiment vu Chrome OS évoluer dans la direction du support des tablettes. C'est vrai que il y a 1 an ou 1 an et demi, un Chromebook globalement, enfin Chrome OS plutôt globalement pouvait à peu près tourner sur des tablettes. Il y avait sur un avec un format tablette, il y avait un certain nombre d'appareils qui pouvaient avoir une charnière à 180, enfin à 360 degrés, qui vous permettait de l'utiliser en mode tablette. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un tas de petits détails qui montraient que le système n'avait pas été complètement pensé pour supporter une tablette. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne aussi bien finalement en mode laptop ou en mode ordinateur de bureau et en mode tablette, ce qui est quand même une prouesse assez incroyable.
Ça va même, à mon avis, Chrome OS, donc comme on le voit maintenant, va supplanter largement Android dans les prochaines tablettes, je pense. Hein. Sincèrement, quand on l'utilise Chrome OS sur une tablette, on se rend compte de la pensée, enfin une feuille de route mieux pensée pour tablette. Alors qu'Android était juste un portage de la version smartphone sans être pensé plus large. C'est l'impression que ça donne à l'utilisation. Moi, maintenant, tous les Chromebooks que j'ai en tactile ont toutes les mises à jour tactiles de Chrome OS. Et je peux, enfin, à l'utilité, c'est vrai que du coup, je me retrouve à plus utiliser mes doigts sur l'écran qu'il y a quelques semaines, quelques mois, parce que c'est hyper interactif, le menu d'état marche super bien. Enfin bref, on en parlera un petit peu après de tout ça. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je voulais mettre le Acer Tab 10 en face de l'iPad, pas parce que
Oh,
j'aime pas
allez,
Apple.
un petit peu pour troller quand même. Non?
Ouais, mais on va continuer à troller alors, parce que du coup, je vais te parler du prix. Donc, l'entrée de gamme chez Apple, donc on a dit 359, puis on rajoute les 100 balles parce que je vois pas l'intérêt de prendre cet iPad sans le stylet, quoi, enfin sans l'Apple Pencil, mais parce que je vois pas l'intérêt, sinon on prend l'ancien, enfin j'imagine.
Non, ouais, bon, alors là, je me désolidarise un petit peu de ton point de vue. Je me dis que tu peux très bien acheter un iPad sans avoir le stylet. Et d'ailleurs, au passage, donc Logitech propose aussi un stylet
À
pour.
49 euros.
Ouais, c'est ça. Donc, du coup, moitié prix que la version
Mais
Apple.
comme...
Vas-y, excuse-moi.
Écoutez, ça fait plaisir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah bah voilà, c'est bon, je me lève de bonne heure et je n'écoute même pas.
Donc voilà, donc ouais, 359 plus 50 $ ou 100, enfin 50 € ou 100 € selon que vous soyez prêt à acheter le stylet soit Logitech soit Apple. Et donc alors quel est le merveilleux prix de cette tablette Acer, mon bon Nico?
Alors, tout compris, l'écran. L'écran, le Chrome OS, le châssis en aluminium, l'appareil photo, le processeur OP1 est seulement pour 329 euros avec le stylet intégré dedans.
Mais c'est
Alors, ce qui est génial dans ce
fantastique.
système, mais c'est fantastique, appelez le 0823.
Ah voilà, je savais que j'allais réussir à te faire l'imitation de Pierre Bellemare et le
Ça
téléachat.
manque exactement de... Ce qui est intéressant, c'est que le stylet est intégré à l'intérieur de l'Acer Chromebook Tab, comme peut l'être chez Samsung ou chez Samsung. D'ailleurs, il n'y a que Samsung qui fait du stylet intégré, je crois, en Chromebook. Et là, il est dans le châssis. Donc ça, moi, je trouve ça plutôt intéressant, parce que ben, tu l'as tout le temps
Tu
sur
l'as
toi et tu n'as
toujours
pas besoin
avec
de...
toi,
Voilà. Ça, c'est vraiment pratique. Après, j'ai émis des réserves parce que... Parce que comment, c'est des tout petits stylets, tu vois, c'est vraiment du stylet, c'est pas un style, c'est pas une taille d'un stylo. Donc j'imagine que pour dessiner, c'est plus pratique avec un produit que tu tiens bien en main. Un stylet, c'est
d'accord.
assez fin, c'est assez. Enfin après, moi je dessine pas, donc comme ça c'est réglé. Mais j'en ai cette impression-là en tout cas.
D'accord. Ouais, intéressant. Et d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais c'est un stylet de la marque Wacom, donc qui est un peu
Yes.
une valeur sûre en la matière. Les graphistes qui nous écoutent savent de quoi on parle. Donc, ce n'est pas un stylet Acer bas de gamme, c'est quand même un stylet, ou en tout cas. Enfin, alors après, je ne sais pas, hein, peut-être que Wacom s'est contenté de poser son nom dessus. Hein. On voit les enceintes, comment ça s'appelle, Bang & Olufsen dans les voitures. En général, bon, il y a le logo Bang & Olufsen, mais c'est pas forcément de la aussi bonne qualité que l'iFi que vous pouvez avoir à la maison fait par le même constructeur. Donc peut-être que là c'est un petit peu ça aussi, c'est peut-être juste un prête-nom. Mais toujours est-il que voilà, que cette tablette est équipée d'un stylet et que le stylet est directement intégré dans le châssis. Il n'y a pas de clavier qui est vendu directement avec. Tu confirmes?
Non, il y a pas. C'est mon seul regret en fait. Il y a pas de clavier. Tu vois, j'aurais aimé un clavier façon Pixel C par exemple, qui protège l'écran en même temps, ou même comme la Surface de chez c'est qui Surface Microsoft, le clavier souple qui se rabat sur l'écran, qui est plutôt intéressant. Après, le toucher est pas terrible, mais j'aurais aimé que Acer propose un accessoire en plus.
Ou même, donc du coup, tu me donnes la transition idéale. Donc, tu as cité le Surface, tu as cité le Pixelbook, qui d'ailleurs n'a un clavier, mais le clavier n'est pas détachable. Ou même le Chromebook HP X2.
Magnifique produit, moi c'est pas compliqué. Thomas, je vais t'envoyer de l'argent quand il sort. Est-ce que tu peux me le jeter?
Alors, on va expliquer un petit peu parce qu'on fait des blagues, mais c'est pas forcément clair pour les gens qui nous écoutent. Donc on change de produit et on parle de HP qui a donc annoncé a priori. Alors, je sais pas exactement pour quand, mais pas exactement tout de suite. C'est dans quelques semaines, je pense, ou peut-être même dans quelques mois.
Mi-juin.
Mi-juin,
Mi-juin.
voilà. La, donc
Mi-juin.
l'arrivée d'un Chrome, du Chromebook X2, donc le Chromebook X2 qui a la particularité d'être donc un Chromebook d'assez a priori d'assez bonne qualité. On a un écran qui est grand. J'arrive pas à trouver les specs, mais il est surtout détachable en fait. Donc on peut
Ouais.
l'utiliser à la fois comme ordinateur portable et comme tablette.
Intéressant. Donc c'est ce qui est intéressant dans ce produit-là, c'est en fait on a plein de rumeurs, ça fait plusieurs mois depuis l'année dernière. En fait, on a une rumeur d'un Chromebook à écran détachable. Alors, on savait pas trop détachable, convertible, c'était un peu mélangé dans toutes les rumeurs qu'on avait, c'était un petit peu tout mélangé, on savait pas qui, comment, pourquoi. Mais on s'y attendait petit à petit. On a vu Acer qui donc sort son Tab 10, comme on vient d'en parler, et dans la foulée, quoi, une semaine après. Donc Acer, déjà, je voulais l'acheter. Bon, et puis d'un seul coup, paf, il y a HP qui nous sort ce produit-là qui me semble être excellent. Lui, il a son clavier détachable qui protège l'écran. C'est juste bluffant pour ça. Il est magnifique. C'est d'un blanc. Enfin, faut le voir. Je vous laisse aller voir. Il y a les photos sur le site MyChromebook. Je vous laisse suivre le lien. Moi, je le trouve super beau comme produit et il a exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que on a notre clavier qui est, alors c'est un système d'aimant mais clipsable
Ouais.
qui vient retenir l'écran et qui peut donc du coup maintenir l'écran en position ordinateur. Donc tu l'utilises comme un Chromebook, comme un ordinateur classique. Tu peux ensuite le détacher, t'as plus qu'une tablette. Donc, ce qui est intéressant, c'est son poids, hein, parce qu'on s'est dit, ouais, mais ça va peut-être être lourd. Bah, elle fait 550 grammes détachée, la tablette. Donc, pas beaucoup plus lourd que l'iPad, qui fait 489 grammes, j'allais dire kilos. Putain, le truc, il est énorme. Donc, en fait, c'est le meilleur de tous les mondes, je crois. C'est ce qu'on cherchait. C'est notre clavier, c'est notre écran tactile, donc complètement pensé avec Chrome OS tactile, et un stylet également, à la façon iPad. C'est-à-dire que c'est pas intégré dans le produit, mais sur le d'après ce que j'ai compris, tu le glisses, il y a un petit anneau sur
Ouais.
le côté du comment s'appelle du clavier pour glisser le stylet dessus. Donc a priori tu peux le conserver comme ça. Ils ont vraiment mis ils ont mis le paquet, hein. C'est un produit avec enfin il a tout, il fonctionne avec un Intel Core, donc ça veut dire que ben, je vais pas m'étendre dessus. Il a tout ce qu'il faut, une mémoire 32 Go extensible, ce qui est pas le cas de l'iPad par exemple. On peut jamais étendre la mémoire. On a un clavier et tout est pensé pour prendre le marché. À mon avis, avec ça, ils vont s'attaquer à Acer qui aujourd'hui n'a pas ce produit-là. Et c'est bien dommage. Et il est magnifique, je le veux. Il est un peu cher, mais pour tout ce qu'il fait, bah, je pense pas qu'il soit cher. Finalement, il est à 600 € ou 589 euros, un truc comme ça. Enfin,
Ouais.
dollars, pardon, puisqu'il il est pas commercialisé en France pour l'instant.
D'accord.
Il le sera peut-être pas. Les 599 dollars. Et bah bref, moi je le trouve magnifique. Je sais même pas par coup. Enfin, je sais pas quoi dire en fait. Pour moi, c'est le très très bon compromis entre la tablette et le Chromebook en fait.
Ouais, à utiliser, à tester. Et d'ailleurs, donc la taille de l'écran, je séchais sur la taille de l'écran. Donc c'est un écran 12,3 pouces,
Ouais, c'est ça.
240 par 100, par 2400 par 160, par 1600. Et
C'est ça.
d'ailleurs, pour la blague, je parlais des enceintes Bang & Olufsen. Donc il a des enceintes Bang & Olufsen Play, enfin des haut-parleurs Bang & Olufsen Play. Donc tu vois, j'ai même pas préparé l'histoire,
Donc ils ont même pensé le son, quoi, tu
donc tu
vois.
vois, voilà.
Ils ont même
Ouais,
pensé.
et donc bon, du coup là, c'est, enfin là, je lève un peu les sourcils parce que c'est vrai que bon, dire que alors c'est Bang & Olufsen qui prête son nom pour les haut-parleurs qui sont probablement de très très bonne qualité. Après bon, faut pas s'attendre à l'équivalent d'un système Hi-Fi Bang & Olufsen dans votre salon, quoi. C'est quand même pas la même chose. Mais malgré tout,
Mais quand
ouais.
tu parles
Vas-y.
du son, ce qui est intéressant sur ce produit-là, c'est que le son, il est sur la tablette, sur la tablette, donc sur l'écran. Donc en fait, tu l'as face à toi quand tu es
D'accord.
sur un Chromebook, alors que d'habitude, ils sont sur le clavier dessous, sur les côtés du clavier, donc le son n'est pas directement en frontal. Et
D'accord.
là, on risque d'avoir un son quand même de meilleure qualité. Enfin, si ce n'est pas de meilleure qualité, je pense que si, mais en tout cas plus audible. Parce que pas enfermé sous ton clavier. Enfin, ça, c'est une aberration d'avoir les enceintes en dessous. Enfin, tous ceux qui savent comment fonctionne le son se disent mais pourquoi ils les ont foutus là-dessous quoi. Là, je trouve ça intéressant la façon de l'avoir pensé puisqu'il faut que le son soit sur la tablette finalement parce que quand tu le détaches, t'as plus le clavier.
Exactement.
Et plutôt, l'idée est bonne. Enfin, moi, je suis assez fan et je suis très très impatient de le tester.
Ouais. Et d'ailleurs,
en plus, il est beau.
En passant, la tablette a même un jack audio. Donc, à une époque où les jacks audio commencent à se faire de plus en plus rares, je tiens à souligner qu'une fois que vous avez détaché la tablette du clavier, vous pouvez brancher un casque. Donc, si vous avez envie de vous regarder un film, par exemple, eh ben, vous pouvez utiliser votre casque audio filaire de bonne qualité. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser du Bluetooth.
Tant mieux d'ailleurs parce que ça nuirait peut-être à l'autonomie de la batterie.
Ouais.
On sait que les Chromebooks c'est des produits qui sont faits pour durer longtemps, donc là je crois qu'il est de 9 heures en utilisation dans mes souvenirs. Quand j'ai écrit l'article, c'est ce qui me semble avoir mis, mais je me souviens plus, j'arrive pas à le retrouver. Donc c'est 9, il me semble que c'est 9 heures en utilisation. Donc après ça peut être du Bluetooth low, comment on appelle ça,
low énergie,
ouais.
Ouais.
Peut-être.
Je sais pas
comment fonctionne le clavier avec l'écran. Est-ce que ça fonctionne en Bluetooth? Est-ce que ça fonctionne grâce au connectique mis dans l'écran? Ça, j'ai pas poussé plus loin que ça en fait.
Ouais. Donc voilà. Donc on a à peu près fait le tour des nouvelles matérielles. Il y a un petit truc dont j'avais envie de parler rapidement. C'est l'arrivée d'un. Alors, c'est pour l'instant, c'est que des rumeurs, donc c'est pour ça qu'on en parle rapidement. Mais il y a deux rumeurs en ce moment. Donc, la première rumeur, c'est des Chromebooks 4K, donc avec un écran de très haute définition. Alors, je sais pas exactement ce qu'il en est. Il semblerait que donc les gens qui s'amusent à regarder le repository de Chrome OS. Donc Chrome OS, faut savoir qu'il y a une grosse partie de Chrome, enfin l'essentiel de Chrome OS qui est open source. Donc on peut, si on comprend le code et si on s'intéresse au système d'exploitation, aller regarder un petit peu le code et voir quand des nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, des nouvelles fonctionnalités qui n'ont pas encore été annoncées officiellement par Google. Et donc il semblerait qu'il y a un certain nombre de choses qui nous laissent penser qu'on va assez rapidement avoir des Chromebooks avec une vraie résolution 4K. Donc très honnêtement, j'avoue que j'ai encore un peu de mal à comprendre les enjeux. Moi, la télé 4K, je veux bien, mais je vois pas trop dans quelle mesure un Chromebook.
Perso, je vois
4K.
Pas trop l'intérêt non plus. Hein. Sincèrement, si on reste sur des écrans 13 pouces, 4K, t'imagines, ça va être minuscule sur l'écran, quoi.
Ouais.
C'est moi déjà, je mets pas là mes Chromebooks, ils sont pas en définition maximum parce que à un moment, je vois plus rien. C'est peut-être là, tu me diras, mais. Mais franchement, c'est vraiment petit, quoi. Je suis obligé de zoomer pour voir. Ok, j'ai de la place sur mon écran, super. Mais sur mon bureau, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'icône. Et après, tout est minuscule, donc en 4K, mais ça va être microscopique. Donc après, est-ce qu'ils essayent pas de diversifier et puis de passer sur des écrans plus grands pour essayer d'attaquer le marché fixe, tu vois, avec leur Chrome base?
Ouais.
Peut-être qu'ils tiens, on va avoir des écrans 21 pouces bientôt. Alors, est-ce que on va mettre
Ouais, mais non, mais apparemment, enfin, l'article que je suis en train de regarder, donc c'est un article qu'on vous a mis dans les liens de l'émission. L'article parle apparemment de laptop, enfin, d'ordinateur portable, vraiment. Enfin, l'idée du 4K, ce serait vraiment pour des ordinateurs portables. Il parle en gros d'un nouveau profil qui a été ajouté, donc de la même façon que le profil Poppy en fait permettait d'avoir des Chromebooks à écran détachable. Donc, comme on vient de vous en parler avec le HP X2. Donc là, a priori, on a aussi encore des écrans détachables, mais qui cette fois-ci seraient 4K, et donc ce serait le nom de code, ce serait Atlas, donc pour le profil. Donc voilà, donc non, a priori, ce serait vraiment des tablettes, ou des écrans, des laptops avec écran détachable et 4K dessus. Mais ouais.
Ouais, je suis sceptique quand même. Après avoir, hein.
Ouais.
Je me trompe et tant mieux, mais je suis assez sceptique.
Voilà. Et donc, il y a des rumeurs aussi pour. Donc là, c'est la rumeur qui s'ajoute à la rumeur. Enfin, en tout cas, c'est une information non confirmée par Google. Donc, on ajoute une rumeur à ça qui dirait que peut-être que ce nouveau profil a été ajouté en vue de l'arrivée d'un nouveau Chromebook, d'un nouveau Pixelbook, pardon, fait par Google et qui serait donc la deuxième génération du Pixelbook qui a été lancé l'année dernière. Dont on vous avait abondamment parlé dans ce podcast. Donc voilà, donc on ne sait pas trop ce qu'il en est aujourd'hui, c'est juste des rumeurs, mais on voulait vous en parler, histoire de dire que si jamais vous en entendez parler dans 3 mois, et bien vous pourrez dire Thomas et Nico nous en ont parlé dans CKB Show en avril. Donc après le matériel, on parle un peu de logiciel maintenant. Nico, c'est une news que tu as postée qui vient d'ailleurs de ton blog, My Chromebook, qui nous parle des mises à jour et en particulier d'une visualisation des mises à jour de Chrome OS. Donc dis-nous tout.
C'est un peu l'anarchie. Je sais pas si tu sais, toi, en quelle version ton Chromebook peut passer si tu es sur le canal canal stable, canal Canary et compagnie. Est-ce que tu as la moindre idée jusqu'à quelle version tu peux aller sur ton Chromebook aujourd'hui?
Je suis en canal stable 66. Tu vois, j'ai
Je te
révisé,
dis,
donc je sais.
si, c'est bien. Et si je te dis.
Ah non, en fait, je me suis gouré, je suis en bêta. Je suis en bêta
Ah là!
66.
T'as mal révisé, hein, putain. Mais voilà. Mais si je te dis, si tu passes en dev, quel canal tu auras, enfin quelle version tu auras, tu sais pas
Non,
aujourd'hui.
j'en sais rien, j'avoue, je sais pas.
Savoir, enfin c'est pas un truc qu'on regarde tout le temps. Du coup, il y a beaucoup de monde qui me disait, ouais, mais moi, si je passe sur, là j'ai tel Chromebook, si je passe sur le dev, parce que tu nous parles tout le temps du dev pour avoir des nouvelles versions, est-ce que moi j'aurai la même chose que toi? Ma réponse était, je sais pas, hein, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas tous les Chromebooks chez moi. Google a dû entendre ma conversation, genre ils écoutent nos conversations via mon Google Home Mini et ils sortent une page web qui référence la totalité des Chromebooks, ChromeBase, ChromeBox, enfin tout ce qui fonctionne sur Chrome OS avec toutes les versions disponibles de Chrome OS pour tous les appareils.
Ouais, et
Et
là,
ça, c'est
alors, et alors là, je dis attention, parce que si vous vous attendiez à un joli site avec un joli CSS et une belle présentation, vous allez peut-être être un tout petit peu déçu. Honnêtement, Wikipédia à côté, c'est une œuvre d'art. Là, c'est vraiment purement fonctionnel. Mais en effet, comme Nico vous l'explique, ça vous donne la liste de quasiment tous les Chromebooks encore supportés, de toutes les versions, de même les noms de code des versions en question.
Ouais.
Et donc voilà. Donc c'est très complet, mais c'est très rustique, on va dire.
Oui, rustique, c'est un tableau. C'est pas une œuvre d'art, c'est un tableau avec des traits, des carrés, bref, c'est très moche. Par contre, c'est super utile. Et puis on sait quel Chromebook ne sera plus mis à jour ou autre chose comme ça, ou si c'est en avance ou pas. Une chose intéressante, et j'ai vu personne en parler parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle de cette page-là maintenant, c'est qu'en plus vous avez le recovery, le comment on appelle la possibilité de télécharger une version
L'image de dépannage,
Chrome OS.
de comment est-ce qu'on appelle ça? De récupération, de
Ouais,
restauration.
c'est ça.
L'image de restauration,
Ouais.
c'est ça?
Sur le système de chaque Chromebook et sur toutes les versions Chrome OS disponibles pour ce Chromebook-là. Alors, c'est bluffant. Alors, à quoi ça sert? Ton plan de ton Chromebook pour X raisons, même si c'est très, très rare. On te demande de faire une clé de restauration. Et pour faire la clé de restauration, il faut avoir l'image disque, en fait. Il faut avoir l'image Chrome OS. Bon, le problème, c'est que ton Chromebook, il est mort, donc tu peux plus faire l'image. Et avant, les gens galéraient à trouver l'image parce que c'était pas forcément bien référencé. Et ben là, plus de problème. Elle est là. Tu télécharges la version que tu veux et tu peux faire ta clé USB de restauration hyper facilement. Et ça, je trouve ça génial.
Ouais, non, c'est clairement pour les gens qui, entre guillemets, pour les gens qui bidouillent, hein, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, pour les gens qui s'amusent justement à passer d'un canal à un autre, c'est un bon moyen de savoir un petit peu quel est l'état de l'art et de savoir quelle version est disponible et quelle version vous pouvez faire tourner sur votre Chromebook. Donc, merci Nico, c'est très pratique.
Ouais, c'est génial.
Voilà, donc le
Parle de
menu.
version Chrome OS. Justement, tu sais, je te disais, on me demande, tiens, comment t'as eu parce que je parle de toutes les news que je récupère et souvent je suis en canal dev, donc j'en parle, les gens ne l'ont pas encore, les utilisateurs de Chromebook qui sont sur le stable n'ont pas la nouvelle version de Chrome OS que je peux avoir moi. Et on me dit, mais quand est-ce que je l'aurai cette version? Comme je disais, je sais pas, il faut simplement être sur Chrome OS version 66.2.3.8.9. Grâce à ce tableau-là, tu sais si tu l'as et quand. Grâce à ça, tu peux savoir si tu as le nouveau menu d'état qui est hyper tactile en fait, qui est travaillé. Tu l'as vu le nouveau menu, le menu d'état?
Ben
Quel truc en bas à droite?
je l'ai vu grâce à ton screenshot en fait sur My Chromebook parce que je suis sur le canal bêta et pas sur le canal dev et donc j'ai pas encore accès.
Pas encore, c'est génial, hein. Ça marche super bien. Bon, après, c'est le copier-coller d'Android P. Non,
Ouais.
ouais, c'est ça, P, la dernière.
Ouais.
C'est génial, c'est vraiment conçu pour le tactile. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de Chromebook Tab et puis du Chromebook HP X2. tout est conçu sur Chrome OS maintenant pour être tactile, en fait. Et c'est des grosses icônes, c'est des icônes ronds qui sont plutôt jolies. C'est un accès à toutes les fonctions très rapidement. Donc, tu as un curseur pour augmenter le son, le diminuer, qui te permet de l'augmenter juste avec le doigt. Il est pas petit, tu peux le toucher. Et je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais c'est vraiment super bien fait. Et ça, c'est dans la dernière version de Chrome OS. Donc, si vous voulez tester, il faut passer sur le canal dev. Pour l'instant, le bêta ne l'a pas encore. Mais il est juste beau. Moi, j'aime bien parce qu'en plus, il est foncé. Et il fait partie des interfaces faites pour pas agresser les yeux.
Ouais, non, c'est vraiment chouette et puis là encore, bah ouais, on sent que c'est quelque chose qui a été conçu pour être assez facile à utiliser en mode tactile, aussi bien en mode tactile qu'en mode entre guillemets clavier et trackpad ou
Ouais.
clavier souris. Donc ouais, non, c'est joli, ça fait plaisir de voir que le système évolue et qu'en plus c'est de plus en plus joli. Et donc, toujours dans la même veine, tu nous parles de Material Design 2.
C'est ça. Google va fêter les 10 ans de Chrome. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. 10 ans de Chrome. Bon, on va fêter son anniversaire. Et pour fêter son anniversaire, il lui offre pas un gâteau, mais il lui offre un lifting. Ouais. Étonnant comme cadeau d'anniversaire, mais pourquoi pas. Donc ils vont. Alors pour l'instant, on n'a pas tout ce qui va arriver, mais on a déjà pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses. Donc c'est vraiment Chrome qui change, hein, pas Chrome OS. Donc ça veut dire que vous le retrouverez aussi si vous êtes sur un autre système d'exploitation, vous allez retrouver la même chose et que vous utilisez Chrome. Là, ils ont modifié. Donc pareil, ils le rendent plus tactile, plus simple d'accès. Ils ont modifié l'interface, hein, tout simplement. On retrouve des onglets assez larges. Qu'on avait perdu au petit à petit. Je ne sais pas si tu te souviens des mises à jour. Avant, c'était très large. Ils sont revenus plus petits pour faire plus joli, moins. Mais sauf que c'était pas assez tactile finalement, parce que plus c'est petit, moins tu peux le toucher avec le doigt. Pour fermer un onglet, le bouton la croix est vachement accessible maintenant. Et puis ils ont arrondi un petit peu tout ça. L'omnibar, en fait, c'est plus léger. Les icônes sont plus défini, et puis la barre d'URL est devenue ronde. Bon, très sympa. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était sympa dessus aussi? Quand tu fais une recherche sur dans la barre URL, donc vous le savez tous, c'est aussi le moteur de recherche Google, tu as des petites icônes à gauche de ce que tu es en train de saisir pour te dire ça va être un site web, ça va être dans tes favoris, ça c'est un site que tu visites fréquemment. En fait, ils savent déjà tout ce que tu fais au quotidien sur Chrome, et il te rajoute une petite icône, à gauche, là où on voit sécurisé, non sécurisé quand tu es sur un site. Il te rajoute une icône avec, l'icône est différente en fonction de ce que tu cherches. Là, tu vois, je viens de taper M, là, il me dit, je vais aller chercher sur Internet. Si je tape My Chromebook, je commence My Chromebook, il me dit, oh, tiens, tu as un onglet favori qui s'appelle My Chromebook, tu veux celui-là? Si je tape tableau de bord My Chromebook, il me dit, tiens, il y a un truc avec un login, donc tu vas souvent dessus. Et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt joli.
Ouais.
Bref, ça révolutionne rien, mais c'est un petit lifting qui est très sympa pour la suite de Chrome, et ça apporte encore un truc. On voit que Chrome est au centre de tout pour Google, hein, pour pouvoir le changer comme ça. On est sur quelque chose de très important pour Google.
Ouais.
Tu l'as vu, non? J'ai fait deux petits screenshots de ça.
Ouais, j'ai vu ça. Non, là encore, j'ai pas eu l'occasion de tester personnellement, mais j'ai vu l'article. Ouais, c'est intéressant. C'est des petits. Enfin, c'est marrant, hein, à la différence de Google qui, en gros, à chaque fois de Google, pardon, d'Android, à chaque fois qu'il y a une version nouvelle d'Android, on a le droit à des changements qui sont quand même assez importants et assez visibles. J'ai vraiment l'impression que Chrome OS suit un petit peu la même tendance. En gros, à chaque version de Chrome OS, il y a des petits changements. Qui sont assez visibles, mais le truc c'est que des nouvelles versions de Chrome OS, il y en a quand même beaucoup plus souvent que des versions d'Android, quoi. Donc
6 semaines en plus, ouais.
Comment?
Environ toutes les 6 semaines.
Toutes les 6 semaines, ouais,
c'est ça. Une mise à jour, ouais. Ouais. Donc, c'est impressionnant.
Donc du coup, ça va beaucoup plus vite, et puis ce genre de détails, ce genre d'évolution, et finalement, c'est en gros, au bout de 6 mois, et c'est presque devenu on a presque tendance à oublier qu'en fait au départ c'était pas là quoi, ou c'était des choses qui n'étaient pas comme ça. Chrome par exemple, c'est un très très bon exemple. C'est à chaque fois ils font des changements à la marge, on a l'impression que Chrome finalement reste plus ou moins toujours le même. Sauf que si on avait l'opportunité de comparer Chrome d'il y a 10 ans ou même d'il y a 5 ans à la version de Chrome qu'on a aujourd'hui, on se rendrait compte qu'il y a énormément énormément de petits je sais pas comment est-ce qu'on pourrait lire ça en français, mais des changements à la marge, des changements graphiques à la marge qui font, de design à la marge qui font que le navigateur évolue ou que Chrome OS, pour Chrome OS, le système évolue aussi, quoi.
Ce qui fait qu'on a, on a un vieux Chromebook, mais au final, tout est neuf. Tu vois,
C'est
c'est comme
vrai.
t'habites chez toi depuis 20 ans, mais t'as bougé les meubles tellement souvent que t'as l'impression d'avoir déménagé 500 fois.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne
Et
analogie.
donc moi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'ennuies pas, en fait. T'as l'impression toujours d'avoir quelque chose à découvrir. C'est pas, j'allume, en fait, moi, quand j'allume mon Chromebook, j'allume pas mon Chromebook pour forcément aller sur Internet ou autre chose comme ça. C'est la première chose, c'est j'allume mon Chromebook pour voir ce qui a été modifié. Tu sais, je suis toujours impatient, comme quand t'es gamin et que tu veux découvrir ton cadeau de
C'est un
Noël.
peu Noël tous les matins, ouais, c'est exactement
Ouais,
le truc que j'allais
c'est
dire.
vraiment génial. Et moi j'adore, c'est ce qui me plaît aussi dans cet univers, c'est de jamais être jamais ne rien avoir à trouver, à chercher. Et voilà. Bon bref, c'est un petit aparté, mais j'ai trouvé ça génial et c'est plutôt joli. Et apparemment, c'est pas fini là, c'est juste on voit la pointe de l'iceberg, et d'après ce que j'ai compris, il y a de grosses mises à jour pour Chrome a priori sera annoncé au Google I/O où tu vas aller faire un tour.
Ouais, on en parlait tout à l'heure en préparant un peu l'émission. Donc ouais, j'ai la chance une fois encore d'aller à Google I/O cette année. Donc d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous aussi faites partie des chanceux et que vous faites le voyage et que vous êtes à Google I/O, n'hésitez pas à me faire signe, que ce soit sur Twitter ou autre, et on prendra un verre ou on fera un selfie et puis on postera sur le blog. Mais puis surtout, on aura l'occasion de discuter. Donc voilà, si vous nous écoutez et que vous avez la chance d'aller à I/O, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis je ferai comme j'ai fait la dernière fois, je tâcherai de me débrouiller pour faire le live stream. Faudra que je prévoie un juice pack et de la batterie pour être sûr de ne pas tomber en rade de batterie, mais faire le live streaming de la keynote.
Ça va être cool.
Le live tweeting, pas le live streaming, mais voilà. Donc voilà, donc on a parlé des choses joyeuses et féeriques et des choses qui nous font plaisir et qui nous font chaud au cœur. On va, sans transition aucune, parler d'un sujet qui fait un petit peu moins rêver et qui a été un petit peu moins, qui est un peu moins évocateur de pensées positives, on va dire, mais qui a malgré tout été particulièrement évoqué au cours des dernières semaines ou des derniers jours, on va dire, de cette semaine en particulier, qui est la vie privée. Et en particulier la vie privée du point de vue des fournisseurs de services Internet, on va dire, de façon générale. Et puis bon, là, on vous parle de Chrome OS, donc on va vous parler de Google en particulier. Donc pas mal de choses à dire. Nico, est-ce que tu as un
Ouais,
truc en intro? Est-ce que tu as un truc à dire?
moi, on en entend parler. En fait, le problème, c'est que la vie privée sur Internet, c'est un sujet qui aurait dû être important dès les premiers jours d'Internet. Alors, pas dès les premiers jours d'Internet, puisque au départ, c'était pas du tout destiné à devenir ce que c'est aujourd'hui. Il y a eu une grosse évolution et en fait, nos données, ben, clairement, c'est comme ça que les sites Internet vivent. Enfin, les gros sites, hein, je vous parle des sites communautaires, des sites Internet, c'est pour ça qu'on a encore nos données personnelles. En fait, on les monnaie contre un service, une information. Vous allez sur un journal en ligne, si c'est pas payant, il faut bien qu'ils récupèrent de la thune. Et pour récupérer de la thune, ils utilisent nos données personnelles. La plupart du temps, c'est pas contre nous, c'est juste pour pas perdre d'argent et pas être ruiné, et puis pas avoir un internet à deux vitesses, c'est-à-dire des pages web payantes pour ceux qui sont riches, ils auront des contenus sans publicité, plus jolis, plus fréquents, plus machin, machin. Et puis ceux qui sont pauvres, bon bah vous avez de la pub et puis vous nous filez que vos données personnelles et puis on vous bombarde de publicité. Donc ce qui est intéressant de ces données personnelles, plus il y en aura, plus il y a de gens qui vont avoir de contenu, plus on aura de choses intéressantes. Mais aujourd'hui, on entend parler beaucoup à cause de Facebook et ça commence à me fatiguer, Facebook. J'en entends parler depuis, je sais pas, 2 mois, 3 mois et je m'étais dit, non, je vais pas en parler. Et merde, j'en parle.
Désolé.
Et ouais, je suis désolé, ça me fatigue parce que Facebook, à cause de, c'est quoi, c'est Cambridge Analytica, un truc comme ça,
Ouais, Cambridge Analytica.
qui a utilisé une faille, on va dire, de Facebook pour récupérer des millions de données. Et bah, c'est pour ça qu'on en entend parler aujourd'hui de la vie privée, alors que ça aurait dû être important dès le début. Et il faut faire attention à sa vie numérique. Il faut être avare de ses données et être réfléchi quand on les donne. Visiblement, il n'y a pas grand monde qui a suivi ce conseil-là. Et aujourd'hui, bon, on en parle beaucoup et en Europe, on en parle encore plus parce que on va lancer le 25 mai, si mes souvenirs sont bons, la RGPD. C'est ça RGPD ou GRPD? RGPD.
Je sais pas en fait. Je t'avoue que, c'est les bonnes lettres, je sais pas si elles sont dans le bon ordre ou pas. Ça veut
La
dire la
réglementation générale, alors réglementation générale, donc
de la
RGPD.
protection des données. Ouais, c'est ça. Réglementation générale de
Ah,
la
voilà.
protection des données. Donc ouais, qui est en fait une règle ou en tout cas une directive européenne qui concerne la protection des données et donc qui va être traduite dans le droit français. Donc ouais, à partir, je sais plus si c'est le 25 ou le 21 mai, qui est c'est un peu, enfin bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans ce podcast parce que c'est quand même quelque chose qui va, à mon avis, structurer le monde de la technologie dans les années à venir. Je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après RGPD et je pense on mesure pas encore complètement tous les impacts de cette loi. Enfin, c'est vrai qu'en général, bon, une loi, ok, nous on vous parle de Chromebook, la loi c'est bon, la loi, bon, tout le monde est censé respecter la loi, mais on pourrait se poser la question à quoi ça sert de parler de ce genre de choses dans un podcast sur les Chromebooks. Je pense que c'est vraiment comment dire, une sorte de matrice qui va déterminer dans le futur la façon dont les services Internet vont interagir avec leurs utilisateurs, en fait, pour le dire de façon assez simple et un peu pompeuse en même temps. Mais je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un nouveau jour, avec d'une nouvelle ère en tout cas, avec cette RGPD. Et que ça sera pas forcément les impacts vont peut-être pas forcément se faire ressentir immédiatement, mais je pense que dans 2 ans ou 3 ans ou dans 5 ans, on va dire, on regardera cette histoire de Cambridge Analytica et de Facebook avec un air avec une vision des choses complètement différente en fait. Et d'ailleurs, vu des États-Unis, et je parle beaucoup, et après je te rends la parole, Nico. Vu des États-Unis, c'est intéressant de voir que bah, finalement RGPD, on en parle partout. On en parle au Congrès américain, donc justement pendant l'audition de Zuckerberg. Mais bon, moi, je peux vous dire qu'au boulot, c'est quelque chose qui est, c'est un sujet qui est surveillé d'assez près. En dépit du fait que la boîte pour laquelle je travaille est uniquement aux États-Unis, c'est malgré tout quelque chose qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Il me semble que Facebook a annoncé qu'il allait suivre plus ou moins les directives inspirées de la RGPD et il allait les appliquer à tous ses utilisateurs, y compris les utilisateurs qui sont à l'extérieur qui sont extra-communautaires. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Je pense qu'il faut voir ça comme une direction et l'Europe, bah, pour une fois, on va dire, a fait du bon boulot de ce point de vue-là et pointe les acteurs du numérique dans la bonne direction en leur donnant une direction claire à suivre en fait.
Et qui nous protège un tout petit peu plus, enfin un petit peu plus, beaucoup plus, qui protège nos données en fait, qui seront, on saura où vont partir ces données, pourquoi, et on pourra, je crois, les récupérer si on le souhaite, voire les supprimer. Alors j'ai pas tout lu, hein, c'est trop compliqué pour moi. Enfin, les lois, c'est toujours fait pour qu'on les comprenne pas nous comme un des mortels, mais a priori, c'est à peu près ça, si je me suis pas trompé.
Ouais, ceci étant dit, je pense je vais prendre le temps de rechercher. Il y a des deux trois articles assez intéressants que j'ai parcourus qui donnent une vision assez claire de ce dont il en retourne, justement pour savoir ce qu'il y a dedans et quel genre de contraintes on va imposer aux plateformes internet. Et c'est vrai que bon, le texte de loi est assez long et assez compliqué à lire. Je crois qu'il y a 190 articles ou quelque chose comme ça. Mais malgré tout, finalement, il y a quand même des résumés qui donnent une bonne vision des choses. Et juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, parce que je disais, bon, pour une fois, l'Europe fait du bon boulot. En fait, je voulais pas du tout sentir être condescendant à l'égard enfin, quand je parlais d'Europe, je parlais des institutions européennes. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai quand même beaucoup entendu après avoir passé plusieurs années ici. C'est en gros, en ce qui concerne la technologie, en gros, les États-Unis inventent et créent, la Chine copie et l'Europe réglemente. Et c'est vrai que en prenant un petit peu de recul, et ben si on regarde l'histoire des 10 dernières années, en tout cas de la technologie et d'Internet, c'est pas complètement faux, mais faut croire que bah là l'Europe a réglementé et a réglementé bien. Et de temps en temps, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est bon dans son domaine. Donc là en l'occurrence réglementer les activités des acteurs Internet et du coup montrer l'exemple pour que tout le monde puisse suivre l'exemple. Donc là je pense que c'est ce dont on parle. Donc
Quand
voilà,
on
donc
parle
c'était.
de vie privée, je te coupe, hein. Quand on parle de vie privée, mais comment on peut avoir une vie privée sur un Chromebook en fait?
Voilà, donc il y a voilà, donc c'était une longue introduction, mais maintenant on va revenir un petit peu sur le sujet des Chromebooks. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. Déjà, je pense que la première étape, c'est de savoir de quoi il en retourne, parce que c'est vrai que bon, finalement. Facebook, on a une vague idée des informations qu'on partage avec Facebook. C'est en gros, enfin, on sait en tout cas ce qu'on partage. Après, il y a tout un tas de choses auxquelles on pense pas forcément que l'on partage aussi. Mais finalement, c'est un petit peu plus insidieux avec Google et c'est un petit peu moins clair finalement. Finalement, Google, on fait des recherches, on utilise un téléphone Android, on utilise un Chromebook, mais on n'a pas forcément une vision super claire des informations qu'on partage. Est-ce que tu es au courant de myactivity.google.com, Nico?
Mais pour l'utiliser que très rarement, mais je connais, à chaque fois que je cherche ces informations-là, à chaque fois je me perds parce que je me souviens jamais de la page.
Voilà.
Donc c'est bien de la redonner, je pense, et c'est bien de l'expliquer
Donc
parce
je.
que c'est énorme ce qu'il y a dedans.
Exactement.
Ça fait peur, hein, ça fait peur.
Donc voilà. Donc je vais vous inviter. J'ai invité tout le monde à aller dans myactivity.google.com. Donc voilà. Quand vous nous écoutez à la maison, prenez le temps. Ou si vous nous écoutez dans les transports en commun, plus tard, quand vous êtes à la maison, prenez le temps d'aller sur cette page-là. Je pense que c'est vraiment important, en tant qu'utilisateur de Chromebook en particulier, de prendre le temps d'aller voir un petit peu ce qu'il y a sur cette page-là, histoire de prendre conscience, on va dire. C'est un peu l'équivalent de votre, je sais pas exactement comment est-ce qu'on pourrait dire ça. C'est votre stream d'activité, en fait, de Google. Donc ça veut dire que tous les points de contact que vous avez avec Google sont enregistrés et vous sont reportés et présentés sur cette page-là. Donc c'est une page internet avec un feed, hein, comme enfin un fil d'actualité, comme le fil d'actualité de Twitter ou de Facebook. Et donc vous avez toutes vos recherches, que ce soit les interactions que vous, enfin les recherches que vous avez faites dans Google, que ce soit les recherches que vous avez faites dans YouTube, que ce soit les interactions que vous avez eues si vous avez un téléphone Android avec des applications Android qui sont pas forcément des applications Google d'ailleurs. Que ce soit vos interactions avec Gmail, si vous utilisez Gmail, que ce soit, je vous dis ça parce que je suis en train de scroller en temps réel, mais en tout cas, vous avez donc jour par jour, en fait, le contenu de toutes vos interactions avec Google. Alors, dans les grandes lignes, je pense que c'est la façon dont Google voit vos interactions. Après, ils ont peut-être d'autres interactions, encore plus d'autres interactions qu'ils stockent. Et peut-être qu'il y a des choses aussi qu'ils gardent pour eux et qu'ils ne vous présentent pas, ou en tout cas le détail de ces interactions qu'ils ne vous présentent pas. Peut-être pour des questions aussi de simplicité, hein, pas forcément pour vous le cacher. Mais donc, du coup, vous avez l'intégralité de vos points de contact et de vos interactions avec Google. Est-ce que tu es en train de regarder au moment où je parle, Nico?
Regardez, puis je viens de rajouter un lien, tu vas le voir. Clique dessus, juste pour rigoler, tu vas voir ce que ça donne et ça fait peur aussi. Donc c'est toujours dans My Account Google.com, mais c'est le dashboard. Toi, t'es allé encore plus loin, mais le dashboard, c'est le tableau de bord qui référence tous les applications Google que tu utilises.
Ouais.
Il y a un truc qui m'a fait triper, c'est les données relatives à vos activités. Tout en bas, il y a activité vocale et audio. Moi, il est en actif parce que j'utilise Google Mini. Et puis, tu vas voir, c'est assez bluffant. C'est pour ceux qui nous écoutent, bah, en fait, il enregistre tout ce qu'on dit.
Ouais, encore
Et donc, vous pouvez
vous
vous
pouvez vous
écouter.
réécouter toutes les OK Google, toutes les commandes OK Google que vous avez faites au cours de bah en fait depuis le début.
Depuis
Et ben
le
tout est
début.
enregistré et donc il y a un fichier audio de toutes les commandes Google que vous avez données et donc Google les a mais il vous les met aussi à disposition si vous avez envie de vous réécouter en train de parler à votre enceinte Google Home et ben vous pouvez le faire. Il y a un truc aussi
Même à ton
marrant
smartphone,
ou même à ton smartphone, ouais. En effet, il y a un truc assez marrant aussi, c'est votre Gmail. Si vous savez pas exactement combien vous avez de conversations Gmail, eh ben vous
voilà.
pouvez voir ça. Donc moi, apparemment, j'ai plus de 46 000 conversations Gmail.
J'en ai
Bref,
38 000.
ah t'as que 38 000. Je te
Ah, j'en
bats.
ai 38 000. Ah, mais moi, je suis un petit joueur. Mais c'est assez bluffant, hein.
Donc
Ça tout va
donc
ensemble et
voilà.
on voit tout.
Ouais,
On
donc.
voit les titres de musique que j'écoute. Et bon, alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut les effacer, hein, quand même, tout ça. On peut tout effacer.
Ouais. Ouais.
Arrête.
Voilà. Donc c'est assez intéressant et je pense que c'est, à mon avis, c'est la première étape, prendre conscience des informations que vous donnez à Google. Et donc quand vous utilisez un Chromebook, eh ben, je pense que c'est encore plus que la moyenne. Ce serait assez intéressant de comparer quelqu'un qui est à 100% dans l'écosystème d'Apple, voir un petit peu et comparer et voir quelqu'un par exemple qui aurait jamais utilisé Gmail. Je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont technophiles et qui n'utilisent pas Gmail, mais il y en a quand même. Ce serait intéressant de comparer un petit peu et de voir quelle est la différence entre quelqu'un qui utilise beaucoup Google et quelqu'un qui l'utilise pas trop. Mais bon voilà, ça vous donne une idée des infos que vous partagez avec Google. La deuxième étape, une fois que vous avez pris conscience, la deuxième étape, c'est de mettre en place un certain nombre de contrôles. Donc de la même façon que vous pouvez donc aller, comme on en a beaucoup parlé, j'imagine, enfin vous en avez beaucoup entendu parler, j'imagine, ces derniers jours, aller dans Facebook et regarder les paramètres de vie privée, il y a quelque chose aussi qui existe comme ça pour Google. Et donc on vous dit par exemple que vous avez toutes les activités audio de Google, OK Google, toutes les commandes OK Google que vous avez passées. En fait, vous pouvez demander à Google de ne pas conserver l'historique. Donc vous pouvez supprimer certaines commandes que vous avez passées en particulier et garder les autres, mais vous pouvez aussi décider, non, je veux absolument ne pas conserver, enfin je veux pas que Google conserve mes recherches, l'historique de mes commandes ou l'historique de mes recherches YouTube par exemple ou l'historique des vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Et donc là du coup c'est myaccount.google.com/activitycontrols. Donc si vous allez sur cette page-là, là encore les liens seront dans les notes de l'émission, vous pouvez éteindre, enfin couper l'accès, enfin ou en tout cas demander à Google de ne pas conserver l'historique de ses commandes ou de ses recherches.
Ouais, ça c'est bien, enfin c'est super intéressant de pouvoir, comme tu dis, d'abord on regarde ce qu'ils ont sur nous, comme ça nous donne un petit frisson dans le dos, et ensuite on le règle. Je viens de rajouter une autre chose, tu l'as vu, puisqu'on parle d'accession aux données personnelles. Sur Chromebook, pour la plupart, on utilise maintenant les applications Android. Je sais pas si tu en utilises beaucoup, toi, mais comme sur un smartphone, les applications, elles nous demandent des droits d'accès à des données, en fait, des fois. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. On te dit, ouais. je veux accéder au micro, je veux accéder à vos contacts, je veux accéder à votre Gmail, je veux accéder à machin, machin, machin. Donc là, je viens de mettre un lien pour modifier les permissions d'accès. Parce que je pense que ça va dans le même sens finalement, parce que donner vos données à Google, c'est une chose, mais les donner à des développeurs tiers qu'on ne connaît pas, c'en est une autre. On ne sait pas forcément ce qu'ils vont faire de nos données, donc autant savoir ce qu'ils prennent et accepter ou pas de leur donner nos données. Donner nos données, c'est bien ça. Ça c'est une chanson d'Enrico Iglesias. Donnez-moi des données. Bref, Dieu vous le rendra. Oui, Dieu, enfin Google quoi.
Voilà.
Je sais pas quoi dire après ça. Ouais, c'est tôt matin pour moi.
Ouais, et donc donc voilà, petite interlude musicale. Et donc du coup, ouais, je voulais aussi dire, donc ça, je savais que ça existait, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est pas forcément toujours évident de retrouver l'URL. Et c'est en fait la chaîne YouTube qui s'appelle Webosaur, qui a été lancée par Remouk et Corben, que je recommande d'ailleurs parce que c'est assez marrant en fait leur conversation. C'est très informel, hein. C'est en gros Remouk et Corben qui discutent, qui parlent de... Ils s'appellent Webosaur parce qu'en fait ça fait un petit moment qu'ils sont sur le net, et donc du coup ils parlent de... Ils jouent un peu au papy vieux con en fait en disant bah voilà, aujourd'hui c'est ça, mais à l'époque c'était différent, et donc ils ont une sorte de recul sur le monde internet, ou en tout cas les plateformes internet telles qu'elles le sont aujourd'hui. Et donc du coup ils ont fait un épisode sur les GAFA et la façon dont les GAFA collectent les données, et donc ils ont parlé de ce site là et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en parler dans le podcast.
Ah, je connaissais pas, tu vois, bah je viens de m'y abonner à l'instant. Donc voilà. Ils sont 1238, à vous de faire exploser leur compteur et les faire passer à 10 millions tous nos producteurs, allez-y. Ouais. On va leur donner une visibilité énorme sur internet.
Ouais, non, c'est leur conversation, c'est assez marrant, c'est très détendu, il y a pas forcément ça, des fois ça part un petit peu dans tous les sens, mais bon, on sait ce que c'est, hein, Nico. Donc voilà, donc un petit message, je pense qu'ils ont pas besoin de nous pour avoir de l'audience, mais voilà, abonnez-vous à leur chaîne. Donc là, on a parlé de Google de façon générale, mais il y a aussi un truc qui est marrant. Donc là, vous avez bien flippé parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, Google sait tout sur vous. Je pense qu'il y a un truc qui est encore plus frappant.
Encore
c'est... C'est d'aller sur google.com/maps/timeline. Et donc, si vous utilisez Google Maps, ce qui est à mon avis le cas de strictement toutes les personnes qui nous écoutent, je pense que même les gens qui ont un iPhone, à mon avis, beaucoup d'entre eux utilisent aussi Google Maps. Donc, si vous allez sur timeline et que vous saviez pas qu'il y avait cette timeline qui existait, là, ça va vraiment vous faire un choc. Parce qu'en fait, Google conserve, on va dire, la géolocalisation de votre téléphone, donc de vous en fait, plus ou moins en temps réel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pas forcément à la seconde près, je pense que c'est plutôt, à la minute près ou peut-être à 4 ou 5 minutes près, donc c'est des fois il y a des petits décalages, enfin de temps en temps. Je suis en train de regarder ma journée, par exemple, là. Mais donc ouais, c'est pas forcément à la minute près, mais c'est quand même assez assez précis, on va dire, et assez assez régulier. Et donc voilà, cliquez sur le lien et vous allez vous rendre compte qu'en fait Google sait en permanence là où vous êtes. Qu'est-ce que ça t'inspire, Nico?
Je trouve ça tellement génial. Alors attention, quand je dis génial, c'est tellement waouh quoi. C'est le pire, c'est que je l'ai déjà vu. À chaque fois, je m'étonne. Là, je viens de regarder mon historique pendant que tu expliquais ce que c'était. Donc moi, il remonte à 2009 déjà. Ouais. Déjà, hein. 2009, je ne savais pas que ça existait, ce truc-là. j'ai pris au pif en 2009. J'ai pris en décembre, je crois. Et le pire, c'est que le truc, il me dit où je suis allé. Il me fait un petit dessin sur Google Maps du trajet que j'ai pris, des arrêts que j'ai fait. Attention, il me dit que je me suis arrêté à tel endroit quand même. Et les destinations où je suis allé. Enfin bref, il sait tout. Il ouais. sait tout ce que j'ai fait, combien de temps j'ai mis pour le faire.
Ouais.
C'est bien. Hein, si j'avais un trou de mémoire, là, il m'a rafraîchi la mémoire.
Je pense que c'est exactement ça. Ouais, c'est pareil. Moi, je suis en train de parcourir. Tu vois, donc, par exemple, si tu me dis, alors, où est-ce que vous étiez lundi 25 novembre 2013? Donc il y a 5 ans, je dirais, j'ai aucune idée. Et en fait, bah là, donc j'ai cliqué sur le lien et je suis en train de me rendre compte que ah oui, d'accord, je visitais un appartement. Ah mais oui, c'était oui, je visitais un appartement, mais en effet, ouais. Donc
donne l'adresse.
Je me rappelle.
Arrêtez.
Je m'en rappelle très bien. Et voilà. Et donc voilà. Donc c'est assez flippant. Hein. Faut dire ce qui est. Je pense que même nous qui sommes assez fans de Google, bon, il y a des moments où ça fait quand même un petit peu peur. Après, bah, c'est vrai que ça a des côtés pratiques, hein, si vous voulez vous rappeler encore une fois de ce que vous faisiez tel après-midi à telle heure ou du restaurant où vous étiez allé à telle époque ou si vous voulez vous rappeler de ce voyage que vous avez fait, je sais pas où, il y a 5 ans et les choses que vous avez vues. Enfin, d'ailleurs, les gens qui utilisent Google Photos reçoivent de temps en temps des emails pour vous dire rappelez-vous de cette journée ensoleillée du 21 mars 2014. Donc c'est ou peut-être plutôt 2016 parce que je pense que Google Photos a commencé un peu plus tard, mais donc voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est je pense que c'est un peu dans cette idée-là que ça a été conçu. Maintenant, il faut savoir que quand on utilise Google Maps et qu'on a un téléphone Android, et ben globalement Google sait en temps réel où vous êtes en permanence. Donc voilà, donc c'est pas une timeline qui est publique. Moi, je suis en train de regarder la mienne, Nico est en train de regarder la sienne, je peux pas voir la timeline de Nico. Et Nico peut pas voir ma timeline, mais malgré tout, bah Google peut voir nos deux timelines. Donc c'est
alors du coup, j'ai un petit conseil à donner à certains de nos auditeurs. Si vous êtes tueur en série, que vous prévoyez un casse, un vol, une agression, n'importe quoi, désactivez votre GPS.
Ouais. Alors après,
du coup, les gens ou si vous êtes dans la police. Si vous êtes dans la police, utilisez ces logiciels, vous prenez le téléphone du mec et vous faites juste ça, quoi. Vous savez s'il était coupable. Bon, bah voilà, ça augmente la vitesse de la justice. C'est plutôt génial, non?
Ouais, non, c'est vrai. Bah, finalement, les comment ça s'appelle? C'est ça, l'histoire des fadettes, c'était ça, non? Les fameuses fadettes des téléphones portables. La police utilise ce genre de solution depuis longtemps. Ils n'ont pas forcément eu besoin de Google pour avoir accès aux données des opérateurs mobiles et pour savoir, en gros, où était votre téléphone à telle heure. Mais c'est vrai que finalement, là, bah, ça nous donne accès, en tout cas, à nos données assez facilement et voir bah, en permanence où on était, à quel endroit on était, à quelle heure on y était. Donc voilà, avec une précision qui est quand même, faut le noter aussi, hein, Google est très très bon pour dire, bah, par exemple, quand vous passez passez un certain temps à un endroit particulier, Google va vous dire, bah tiens, vous étiez à tel restaurant, quoi, et pas celui d'à côté, pas celui d'en face, mais non, c'est vraiment le restaurant dans lequel vous étiez, donc c'est pas
complètement... Puis au cas où il soit trompé, t'as vu, il y a un petit bouton, il te dit, étais-tu bien là? Oui, non.
Voilà, c'est ça. Je pense que t'étais là à telle heure, à tel endroit, est-ce que tu peux confirmer, oui ou non? Ouais, c'est ça.
Ouais, donc même vos trajets, ils savent où vous êtes. Alors c'est pour améliorer la géolocalisation, j'imagine, ou je sais pas quoi, mais c'est en tout cas c'est assez intéressant de savoir que ça existe. Merci voilà. Thomas pour ça.
Voilà, donc voilà un petit tuyau au passage. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'on peut. Je suis en train de vérifier en même temps que je le dis. Si on va dans contrôle, donc la page dont je parlais tout à l'heure, vous avez la possibilité, voilà, historique des positions, gérer l'historique. Exact. Donc vous avez la possibilité de désactiver, mais je pense que c'est activé par défaut pour tout le monde. Donc c'est un ça. Truc à avoir en tête. Ouais.
Bonne news.
Voilà. Donc on va continuer à se faire peur. Donc on a parlé de votre activité sur Google, on a parlé de votre activité sur via Google Maps et de l'endroit où, de votre géolocalisation. On a vite fait parler tout à l'heure des enceintes connectées et de Google Assistant. Donc il y a la CNIL, donc on parle beaucoup des institutions, que ce soit européennes ou françaises, dans cet épisode. La CNIL, qui est donc cette organisation française qui est en charge de la protection des données au sens très large des citoyens. Je suis en train d'essayer de savoir ce que c'est que la CNIL, mais j'arrive pas à trouver. C'est un acronyme qui veut dire...
CNIL.
on va y revenir, mais donc leur objectif c'est vraiment la protection des données personnelles, et donc ils ont créé une page dédiée aux enceintes intelligentes. Donc les enceintes intelligentes, c'est le mot savant pour dire Google Home et Amazon et qu'est-ce qu'il y a d'autre, c'est les principales, on va dire. Mais donc du coup ils vont font une petite présentation rapide de ce qu'il en est, de ce que sont ces enceintes là, comment est-ce qu'elles fonctionnent. En gros la question, est-ce qu'ils vous écoutent en permanence? Ben oui, en fait ils vous écoutent en permanence pour pouvoir détecter quand vous utilisez le fameux mot qui va les déclencher. Donc d'ailleurs Nico, je sais que tu es en train d'utiliser Amazon, donc on va pouvoir faire une petite parenthèse après ça et puis en parler. Mais donc voilà, donc faut savoir que ces appareils-là vous écoutent en permanence, que si vous avez les enfants interagissent avec ces appareils-là, et que donc la CNIL vous recommande potentiellement de pas laisser les enfants interagir avec ce genre d'appareil sans la supervision d'un adulte, ce qui est assez intéressant. Bon, j'avoue, je suis pas forcément dans cette situation-là, donc j'ai un peu du mal à me mettre à la place d'un parent. Mais Nico, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu te sens de laisser un enfant interagir avec une enceinte?
Ben, comment te dire? C'est compliqué parce que déjà, il fait bien ce qu'il veut. Hein, même si c'est moi qui décide, quand je suis pas à 3 cm de lui, ben, s'il a envie de faire une bêtise, il l'a fait, hein, ouais. Clairement. Ça voudrait dire que si je veux pas qu'il interagisse avec lui, vu que c'est par la voix, je peux pas savoir qu'il interagit avec lui directement. Toi, s'il veut dire en 3 secondes, OK, Google, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Je le baïonne?
Ouais. Donc là, il recommande clairement de débrancher les enceintes quand il n'y a pas de supervision d'un adulte.
La maison, ben, lui aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut que je débranche l'enceinte tout le temps que je la laisse brancher quand je suis pas chez moi.
Ouais, non, c'est vrai, c'est assez.
Donc, c'est compliqué.
C'est assez compliqué.
Donc, pour info, la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Exactement. Je le savais, en plus, hein. Je le savais. Mais
c'est le trou, quoi. Et ouais, c'est compliqué pour un enfant. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, je sais qu'il me voit faire. Il est trop petit, le mien, pour l'instant interagir avec. Il me voit faire et il parle pas encore correctement, mais je le sens. Tu vois, dans les tonalités, le OK Google, je crois qu'il le maîtrise.
D'accord.
Ça sort pas encore, mais ça devrait plus tarder.
Ça va pas tarder. Donc ouais.
Bah ouais, forcément, en train de parler à ce truc-là. Et maintenant, il me montre du doigt. Il va vers. J'en ai une au salon. Il va au salon, puis il dit. Il me montre du doigt, puis il me demande de lui parler pour lancer, parce que je lançais des dessins animés Netflix. Il a un dessin animé qu'il aime, donc de temps en temps, je lui lance via le Google Home. Et il va vers lui, puis il me demande le dessin animé en pointant du doigt le Google Home Mini, parce qu'il sait que je lui parle. Ah. Et c'est. Voilà quoi. Il a 2 ans et demi, hein.
Voilà. Donc la CNIL, on va dire, est peut-être pas forcément pratico-pratique dans ses recommandations, mais bon, je pense que c'est quand même assez rapide, ça se lit vite. Ouais. Si vous avez une enceinte à la maison, donc Google Home a priori et bientôt Amazon, ça vaut peut-être le coup de le voir. Et juste, donc ça c'est quelque chose, on vous parle souvent de Tech Café et des deux Guillaume, Guillaume Vendée, Guillaume Poggiaspala, c'est quelque chose dont ils font souvent de la pub, cette page de la CNIL. Donc je vous recommande vraiment d'aller y jeter un coup d'œil. Je pense que c'est une bonne, comme ils le disent eux-mêmes dans leur podcast, c'est une bonne approche si vous avez acheté un Google Home Mini et que vous vous posez des questions quant à la vie privée, encore une fois. C'est peut-être un bon point de départ, histoire de savoir un petit peu à quoi vous en tenir en fait.
Non, mais c'est bien. Et puis la page est simple, hein. Elle est
Ouais,
simple
et la page
d'accès.
est
Hein.
simple, ouais.
Ouais.
Et donc
Très...
Nico, comment ça se passe avec Amazon Alexa?
Ça s'améliore tous les jours.
C'est vrai?
Ouais, tous les jours, enfin pas tous les jours, je crois, toutes les semaines, j'ai des petites phrases à lui dire. Donc je l'alimente de ma belle voix pour que Alexa prenne mes données personnelles et les utilise pour améliorer Alexa. Et grâce à moi, je pense qu'il va bientôt être vendu en France.
D'accord.
Et parce qu'il comprend de mieux en mieux. Alors il y a toujours les radios, je leur ai dit que les radios c'était la merde, j'arrive pas à lancer certaines radios.
Ouais.
Mais moi je suis assez convaincu du produit, hein, il marche bien. Celui-là il est dans mon bureau parce que je c'est pas celui que j'utilise le plus souvent, donc je l'utilise que quand je suis au bureau. Et mais ce que j'aime, enfin après c'est différent du Google Mini parce que il y a un meilleur son. Mais c'est un beau produit. C'est clairement, je comprends pourquoi l'engouement aux États-Unis, ce produit-là, en fait,
Ouais.
il est bon. Il est bon, hein, il comprend bien, malgré que je sois français, franc-comtois, il comprend bien mon accent et il s'améliore de jour en jour. Moi, je suis plutôt convaincu, du produit, enfin, comme Google Mini, hein. Je pense qu'ils vont faire ils vont se faire la guerre, les deux. Bon, après, c'est pas le même budget.
Ouais, alors il
Tu
y a
as à plus à
le
100 euros.
ouais, moi j'ai le Dot, bah juste à côté là d'ailleurs, et pas le Dot, oui si c'est ça, le Echo Dot, donc qui est à 50$, donc finalement c'est le même prix que le Google Home Mini. C'est vrai que c'est assez marrant. Comment?
En France, parce que là, moi, j'ai le Amazon, le Echo,
Ouais, c'est ça,
le
mais je pense que
gros,
le
là.
Dot est pas sera pas peut-être pas disponible directement tout de suite en France, ou peut-être qu'il prendra un peu de temps, mais c'est vrai que toi t'as la version du dessus, donc pour le coup elle est à, c'est quoi, 120? Ouais, en fait on le sait pas, en fait c'est
On sait
119
pas.
ou 60, je
Ouais,
crois
c'est dans
qu'elle
ces
est
zones-là.
60, c'est pas $79 d'ailleurs aux US, ou peut-être que c'était en solde du coup.
Je sais pas, j'ai pas regardé là.
Ouais, mais ouais, enfin c'est vraiment, on a vraiment l'impression de, c'est un peu Sony PlayStation contre Microsoft Xbox quoi, c'est, ou en tout cas au début quoi, c'est, on a un peu l'impression que aujourd'hui ça marche plus forcément, mais à l'époque c'était un peu ça quoi, c'est vraiment deux plateformes différentes qui ont leurs avantages, leurs inconvénients, et puis bah en gros, alors il y a les gros joueurs qui vont avoir les deux parce qu'ils n'arrivent pas à choisir, donc c'est un peu nous. Et puis, sinon, bah l'essentiel des gens vont se dire, bah non, j'ai la PlayStation, je joue à la PlayStation, ou j'ai la Xbox, je joue à la Xbox, j'ai pas m'amusé à avoir les deux. Je pense que le coup d'Amazon contre Google, je pense qu'il y a un peu de ça. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont, enfin, je crois que c'est un foyer sur trois qui a Amazon Prime, donc finalement, c'était quand Amazon est arrivé avec le Echo, bah, ils ont eu ce canal de distribution assez extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un tel niveau d'adoption. Mais là, c'est en train de se rééquilibrer. Et puis Google vend énormément, énormément de Google Home. Donc ça se balance. Et d'ailleurs, tiens, au passage, j'ai vu qu'il y a des news qui disent que l'enceinte de Apple ne se vend pas très très bien. Ce qui est...
Elle abîme tous les meubles. Elle a Siri dedans. Mais c'est une enceinte. Après, c'est autre chose.
Ouais, c'est ouais, bref. On a suffisamment tapé sur Apple pour ce podcast-là. Je te propose qu'on garde le HomePod pour la
Apple
prochaine fois.
a quand même débauché le chef, comment ils appellent ça? Je sais plus son nom. Ils ont débauché le chef de Google Google Assistant, enfin de Google. Donc le chef est parti chez Apple.
Ouais, j'ai vu cette nouvelle-là. Ouais, bah après avoir, en général un bonhomme, ça fait pas tout seul. Après, c'est vrai qu'en général, ce genre de
Ouais.
personne arrive et progressivement débauche petit à petit son équipe. Mais à voir. Je serais vraiment curieux de voir un petit peu comment les choses vont se passer, parce que je pense que c'est, il faut plus qu'une personne. Enfin, il faut des gens talentueux pour réussir ce genre de challenge. Mais je suis assez curieux de voir comment Siri va évoluer dans les 2 3 années à venir. Je pense qu'ils ont beaucoup 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 de retard et ça va peut-être être difficile pour eux de le rattraper. À voir.
Pour moi, le retard qu'ils ont, c'est qu'ils ne possèdent pas beaucoup de données par rapport à Google, des données personnelles pour analyser tout ça, pour que
Ouais,
ça
c'est
fonctionne
sûr.
bien.
Ouais.
Et malheureusement pour eux, la RGPD arrive et ils ne vont pas pouvoir en récolter autant qu'ils veulent.
Ouais.
Donc pour moi, Google a profité d'un trou juridique très intéressant pour pouvoir. Ils sont arrivés au bon moment, je dirais. Ils ont commencé au bon moment et Apple va être en retard. Et je pense malheureusement qu'avec ce retard, ils vont pas réussir à avoir la même chose que ça, ou alors acheter des données à Google peut-être. Je sais pas s'ils vont les vendre.
Ouais.
Tu vois, ils vont peut-être être tributaires d'un fournisseur de données personnelles.
Je ne sais pas. Ouais. C'est vrai qu'en termes d'assistants, enfin, on entend beaucoup, surtout en ce moment, on entend beaucoup parler de les données, le nouveau pétrole, le pétrole numérique et tout. Je pense qu'il y a un certain fantasme quand même de cette histoire de données. Je pense que pour certains services, on a besoin de données, pour d'autres, on n'a pas besoin forcément de données. Enfin, il y a besoin de, comme on dit, hein, d'un corpus de data pour entraîner les modèles, mais on n'a pas forcément besoin de vampiriser tous les utilisateurs de leurs données pour avoir une intelligence artificielle, en tout cas spécifique, adaptée à un problème particulier qu'on essaye de résoudre. Après, c'est vrai que l'exception, elle est quand même faite pour assistants. Et c'est vrai que bah, quand il s'agit de fournir un service d'assistant, vraiment pour le coup au sens propre, hein, à un utilisateur, bah, là on a quand même besoin de savoir comment cet utilisateur utilise les produits, ce qu'il en pense, ce qu'il veut, où est-ce qu'il habite, ce qu'il consomme, quel est son agenda. Enfin là, pour le coup, on a quand même besoin d'avoir beaucoup d'informations spécifiques à cet utilisateur-là. Donc voilà. Donc je pense que ça fait partie des exemples où pour le coup, oui, avoir des données, c'est important. Et c'est vrai qu'Apple s'est un peu mis dans un c'est un peu coincé tout seul en fait, en disant bah non, nous les données ça nous intéresse pas. Enfin, c'est pour le bienfait des utilisateurs, mais c'est vrai que ça leur rend quand même pas forcément service quand il s'agit de développer un assistant de bonne qualité, quoi. Donc à voir. On a fait une petite parenthèse sur assistant, mais du coup il faut quand même qu'on revienne sur cette histoire de vie privée connectée. Il y a donc là un article que tu as posté au sujet de Cloudflare qui lance un DNS. Un DNS qui respecte la vie privée. Donc là, c'est un petit peu technique. Est-ce que tu peux nous donner des détails, Nico ?
Alors, un DNS, pour ceux qui ne le savent pas, donc Thomas, je sais que tu sais ce que c'est, donc ça va être redondant, désolé. Mais un DNS, je vais imager le truc. J'aime bien faire des dessins, même si je suis nul. En gros, c'est un catalogue d'adresses IP, hein, si je fais simple, d'adresses physiques, pardon. Donc, une adresse physique, j'appelle ça comme www.google.fr, www.mychromebook.fr, et ainsi de suite, qui met en relation ces données physiques avec des données IP. Donc, en fait, c'est quand même plus simple de taper google.fr que de taper 192.8.9.6.32. Je sais pas quoi. C'est quand même beaucoup plus simple à retenir et à saisir. Donc en fait, il y a plein de fournisseurs de DNS, donc ce fameux catalogue de mise en relation qui existe. Il y en a beaucoup. Donc tous les opérateurs ADSL, enfin Internet en ont, ils ont leur propre DNS, donc ils ont leur propre serveur. Quand tu vas dessus, ils chopent ton URL, ils disent ah bah ça correspond à Google, ils t'envoient donc sur la page de Google facilement. Sauf que ben tous en ont et à quoi ça sert? Ben, ça sert à simplifier l'accès à Internet, parce que sinon aujourd'hui on serait pas aussi souvent sur Internet, parce que ce serait un peu compliqué, ou on resterait toujours sur les mêmes sites Internet. Et le problème des DNS, ben, c'est que pour vous envoyer sur tel ou tel site, il est obligé de savoir ce que vous tapez. Et ils gardent ces informations-là. Donc, il y en a qui sont plus ou moins respectueux. Je vais donner un exemple en France. Par exemple, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a dit, oui, nous, on a des données. Oui, mais on les utilise pas ou peu. Enfin, bon, on les a quand même. Bouygues a dit pareil. SFR a dit pareil. Free a dit, bah, nous, on n'a pas vos données. Enfin, ils y sont, mais on les stocke même pas. Nous, on les garde pas. On s'en sert pas. Donc, peut-être que ce sera leur détriment plus tard, mais aujourd'hui, ils disent ne pas s'en servir. Donc, à chaque fois que tu tapes ta DNS, bah, le truc, c'est que certains vont récupérer les données. Certains serveurs, bah, comme tous les serveurs, il y en a qui sont plus ou moins rapides. Donc, par exemple, si je vous parle d'une DNS qui est très, très connue, c'est celle de Google. Donc, elle a 8-8-8-4-4. Donc, c'est deux DNS très, très simples à retenir. On peut les mettre. La difficulté, par exemple, si tu tapes le nom d'un site Internet qui n'existe pas, ils auraient la possibilité de te rediriger vers une autre page Internet s'ils le souhaitent, en fait, en changeant cette DNS. Les opérateurs l'ont fait une période. Tu tapais le nom, je sais pas, tu tapais Google avec 3 O ou 4 O, puis en fait, il n'y a pas de site Internet derrière. Bah, ils te redirigeaient sur la page orange.fr. Tu vois, histoire de dire qu'ils sont là, quoi. Donc, ça prouve qu'en fait, il n'y a pas trop de sécurité, enfin, de vie privée dessus. Et donc, Cloudflare s'est dit, ben, tiens, il y a une DNS qui est quand même facile à retenir, qui est la 1.1.1.1. facile hein, quand même. Enfin, il y a qu'une touche à appuyer quasiment, qui est hyper rapide du coup. Et parce qu'ils ont des serveurs, en fait, Cloudflare, c'est, je crois dans mes souvenirs, ils gèrent beaucoup de données. Et ils les fournissent, des services de données, il me semble. Enfin, ouais, genre vérifier pour pas dire
ouais,
de bêtises.
Cloudflare, c'est ça, fournit du load balancing et des. En gros, ils fournissent des plus gros tuyaux. Donc, si vous avez un petit site internet, mais que vous avez potentiellement beaucoup de trafic, Cloudflare. Et je crois qu'ils font aussi du comment ça s'appelle, CDN, Content Delivery Network. Donc, ouais. Donc, si vous avez beaucoup de trafic et que vous voulez quand même avoir un site qui tient la charge, Cloudflare propose tout un tas de solutions qui vous permettent de faire face à la charge, en fait. Et aussi les attaques, d'ailleurs, les attaques DDoS, je crois qu'ils sont surtout connus pour ça, d'ailleurs, le protéger des attaques de déni de services distribués.
Donc du coup ils sont dit bah tiens on va récupérer cette DNS alors qui existait déjà depuis longtemps, mais en fait il y a beaucoup de testeurs qui testent des applications avec cette en interne sur leur matériel pardon ou sur leur logiciel, et ils testaient souvent avec cette DNS, donc personne savait vraiment il y a personne qui était capable de se servir de cette DNS. Et Cloudflare, bah eux ils sont bons, ils savent faire, ils se sont dit bah tiens on va s'attribuer cette DNS et ça marche plutôt bien. Moi je la teste un petit peu pour voir comment ça fonctionne sur mon Chromebook. D'ailleurs je vous mets le lien pour changer la DNS directement sur votre Chromebook si vous voulez la tester, voir la fluidité, la réactivité de votre navigateur web sur cette DNS. Je peux vous dire que c'est plutôt sympa à utiliser au quotidien. Bon, les deux avantages qu'ils mettent en avant, après voir si effectivement ça sera fait comme ça, mais on peut leur faire confiance, c'est quand même une grosse structure, peut-être pas au même niveau Google, mais quand même une belle grosse structure. Donc c'est, pour moi c'est plus rapide, ils annoncent comment on appelle ça, une vitesse à 1,4 millisecondes, je crois, contre les concurrents. Enfin, ils sont à la ramasse à côté. Quand tu regardes leur graphique sur leur page que je vous ai mis sur le lien, les autres sont vraiment à la ramasse. Là, par exemple, ouais, 14 millisecondes, et ils comparent à la DNS publique de Google, c'est 34 millisecondes. Bon, on parle en millisecondes, hein, attention. Donc, est-ce que c'est grave ou pas? Mais voilà, il y a un petit graphique qui est marqué. Là, par exemple, ils lui disent que c'est 28% plus rapide que les autres. Ouais. Donc, ça peut être intéressant. Et ils ne conservent pas les données. Enfin, en tout cas, ils les gardent pour eux.
Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est d'où la protection des données. Donc, ouais, vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas vous garder. À la différence de Google qui, potentiellement, il n'y a pas de garantie sur ce qu'ils font des données. Là, au moins, vous pouvez être sûr que ça a été conçu avec la vie privée des utilisateurs en tête. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc, quand ils ont annoncé ça, en fait, ils ont, dans tout San Francisco, ou en tout cas dans tout SoMa, qui est le quartier en San Francisco où il y a beaucoup de startups, ils ont mis des affiches un peu, tu sais, genre comme les affiches quand t'as perdu ton chat, tu sais, ils ont collé des affiches sur les lampadaires en affichant 1.1.1.1, sans plus d'informations. Et je pense que la plupart des gens, puisque comme en général, tous les gens qui sont dans le quartier travaillent de près ou de loin pour des startups. Il y a beaucoup de gens qui savaient de quoi il en était. Mais ouais, ils ont fait pas mal de pubs autour de cette histoire de DNS. Donc voilà, donc Cloudflare se lance dans la protection de la vie la protection de la vie privée des utilisateurs. Donc c'est assez intéressant.
Mais on peut se protéger aussi autrement sur Internet. Quand on surfe sur Internet, on peut se protéger. Alors, se protéger, pas forcément se protéger, mais on peut avoir accès à des services différents, même dans des pays où on n'a pas le droit d'accéder, genre des pays hyper intéressants et démocratiques comme la Chine, où tu peux effectivement faire ce que tu veux, ou la Russie. Tu es journaliste là-bas, bah autant te dire que tu peux ne pas parler, hein, t'as pas le droit. Donc l'État bloque les accès au site internet, à les informations, tout ça, et du coup tout ce que tu fais. Donc pour passer outre ça, ben Google s'est dit tiens, nous on va faire un truc qui est super intéressant, on va créer notre propre VPN. Tu sais ce que c'est qu'un VPN, Thomas, j'imagine.
VPN qui veut dire Virtual Private Network, c'est ça.
Réseau privé virtuel pour nous francophones.
Réseau privé virtuel.
Donc, en gros, comment on peut résumer ça?
C'est un tunnel, en fait. On m'a expliqué ça un jour, j'ai retenu l'explication. Imaginez, vous avez votre ordinateur qui est connecté à Internet. Donc, vous allez sur Internet et vous installez un VPN qui est, je sais pas, mettons, par exemple, tiens, chez Nico. Moi, je suis ici à San Francisco. Chez Nico, on met un serveur VPN. Et donc, du coup, tu connectes ton serveur VPN à Internet. Donc, c'est une boîte connectée à Internet chez toi. Et du coup, avec le protocole VPN, en fait, je vais pouvoir, à partir de mon ordinateur, me connecter à ton VPN dans ta machine. Donc, je fais tout ça via Internet. Mais le seul truc, c'est que du point de vue du réseau ou du point de vue des gens qui écoutent le réseau, ça fait exactement comme si, en gros, je creusais un tunnel sous terre et je branchais un fil sur ton, chez toi, sur ton serveur, et je me connectais avec ce fil. Et donc, du coup, en fait, on a cette espèce de tunnel entre mon ordinateur et ton serveur. Et donc, du point de vue du réseau, en fait, c'est comme si je me connectais à partir de ce serveur-là.
Donc, toi, tu serais connecté depuis la France et non plus depuis les États-Unis.
Et voilà, c'est ça. Et donc, tous les services, par exemple, me verraient comme étant connecté depuis la France. Et donc, du coup, tout le trafic entre mon ordinateur et ton serveur VPN serait complètement crypté et complètement invisible pour le réseau. Qu'est-ce que tu penses de mon explication, Nico ?
Ah, c'est bien. Non, mais j'ai compris. Enfin, je connaissais déjà, mais il est hyper simple. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok,
c'est,
moi,
c'est
je...
un tunnel. Ah, ouais, c'est on ça. Dit, on dit tunnel VPN, hein, d'ailleurs. C'est pas, enfin, j'ai pas non plus, c'est pas non plus révolutionnaire comme explication. Mais je pense que ça présente bien les choses, en fait.
Ce qui fait que tu accèdes à des données qui ne sont pas accessibles depuis les États-Unis. Typiquement, tu
par
veux
exemple,
utiliser,
ouais.
Tu veux regarder TF1 aux États-Unis. T'as pas le droit parce qu'il y a des droits, machin.
Ouais.
Avec mon VPN, tu pourrais regarder TF1.
Voilà. À moi, Jean-Pierre Pernaud, tous les midis.
Écoute, t'es heureux?
Et donc, du coup, on vous parle de ça parce qu'en fait, Google a fait assez fort. Donc, des VPN, il y en a beaucoup qui existent, ça fait très longtemps. Il y a les gens qui sont bien, bien branchés et qui sont bien au courant de ce genre de choses savent qu'en gros, c'est assez facile de se bidouiller, se monter toi-même son propre VPN. Et on peut faire les choses de façon assez simple avec OpenVPN, avec des outils libres et open source. Il y a aussi depuis quelques années tout un tas de fournisseurs de VPN payants qui sont aussi mis sur le marché. Donc vous pouvez payer quelques dollars ou quelques euros par mois. En général, c'est un peu moins de 10 dollars. La plupart du temps, c'est entre 3, 4, 5, 6, 7, 8 dollars par mois. Et donc voilà, donc vous pouvez payer tous les mois et vous avez accès à un VPN avec des débits qui sont d'assez bonne qualité, ce qui n'est pas forcément le cas des VPN gratuits qui existent aussi, mais du coup qui sont un petit peu plus nébuleux en ce qui concerne justement la vie privée et ce qu'ils font de vos données de connexion. Parce qu'il faut savoir que, vous pouvez vous connecter par l'intermédiaire de ce VPN et donc du coup, en gros, vous donnez au réseau l'impression que vous venez de ce VPN-là, mais les gens qui montent le VPN peuvent très bien aussi avoir garder vos logs de session, garder vos données de connexion, etc. etc. Donc, il faut quand même avoir confiance dans la personne qui monte le VPN. Donc, l'exemple que je donnais avec Nico, j'ai complètement confiance en Nico, mais quand vous utilisez un VPN public ouvert, vous ne savez pas forcément qui sont les gens qui l'hébergent, donc ça peut poser des questions à ce niveau-là. Donc, il y a aussi des hébergeurs privés. Mais donc, il y a aussi un nouvel acteur qui est
Alphabet.
Alphabet, qui est aussi le nom de la maison mère de Google. Et donc, Alphabet a lancé Outline, c'est ça qui
ouais.
est en fait, ou Outline en français, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. qui est donc un...
Je ne sais pas comment vous prononcez mal l'anglais, désolé.
qui est un... Je suis fatigué, en fait. J'avoue, j'ai pas fait exprès. J'avais pas l'intention d'être condescendant, mais maintenant que je réfléchis, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément... Il est tard ici, tu sais, je commence à fatiguer un peu. Outline, qui est un outil qui vous permet de créer un VPN de façon assez simple. Alors, je suis pas sûr que ce soit open source. Est-ce que c'est open source?
Ouais, je crois que si, hein, il me semble avoir.
Ouais, c'est peut-être open source, ouais. Mais du coup, c'est gratuit surtout. Alors, le truc, c'est qu'il faut que vous l'hébergiez vous-même. Donc, justement, l'exemple qu'on donnait chez Nico, en fait, on peut faire ça. Faudrait que Nico, alors ça marche pas sur, enfin ça marche, le serveur qui devient votre serveur VPN doit être soit sous Windows, soit sous Linux, soit sur macOS. Donc ça peut pas être un Chromebook, un de tes vieux Chromebooks que tu utilises plus. Quoique à la limite on pourrait installer Linux dessus et peut-être transformer ça en machine Linux et du coup le faire tourner. Et par contre, après, une fois que vous avez votre serveur qui est mis en place, donc que ce soit donc chez un pote ou je sais pas où, ou alors vous pouvez aussi le mettre directement sur une machine Amazon Web Service ou du coup un container Google Cloud Platform. Google Cloud Platform. Une fois que vous avez ça en place, vous installez le client sur votre machine. Donc là, pour le coup, c'est aussi Microsoft, Apple, pas Linux d'ailleurs, tiens. Mais ça marche aussi sous Android, ça marche aussi sur iOS et ça marche aussi sur Chrome OS. Et donc, une fois que vous avez ça en place, eh ben, du coup, vous avez votre VPN qui tourne et qui est prête à l'emploi.
Bien simple, hein, c'est trois clics en gros. Ils disent, moi, je n'ai pas testé encore, mais en trois clics, tu peux créer ton VPN assez rapidement. Quoi. C'est assez bluffant. Donc, ils l'ont fait, donc le, comme je disais tout à l'heure, ils l'ont fait principalement, ce n'est pas pour tricher, télécharger illégalement des films qui viennent de sortir au ciné ou voilà, c'est principalement fait pour aider c'est l'argument principal, ça, après t'en fais ce que t'en veux, pour aider les journalistes qui malheureusement ne peuvent pas s'exprimer à cause de la trop forte pression de l'État à l'endroit où ils sont.
Ouais, voilà, et c'est vrai qu'on parle d'Alphabet, donc en fait c'est pas Google directement qui a créé ça, mais en fait c'est Jigsaw qui est une des sociétés de Alphabet qui justement se focalise, c'est un incubateur en fait, Jigsaw, donc c'est pas forcément une société à but lucratif, mais c'est plutôt je sais pas comment on pourrait présenter les choses, c'est une organisation qui se focalise sur le développement de projets qui viennent en aide justement à des journalistes ou aux gens qui sont victimes de censure. Donc je pense que ça a vraiment été développé dans cette idée-là, ça appartient à Google, mais c'est presque quelque chose qui ressemblerait plus à une organisation non gouvernementale en fait qu'à une société privée. Donc voilà, donc ils ont tout un tas d'autres projets. Il y a des projets aussi, on parlait justement des attaques de déni de service avec Cloudflare. Donc ils ont un projet qui s'appelle Project Shield qui permet à certaines organisations journalistiques par exemple d'avoir une solution d'infrastructure un peu plus solide qui résisterait à justement des attaques de hackers qui viseraient à les censurer à mettre leur site en ligne pour les censurer. Ils ont tout un tas d'outils en fait. Je suis en train de regarder, il y a apparemment 21 projets donc qui sont à des niveaux d'avancement différents. Mais donc voilà, donc c'est un peu le bras, on va dire, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire les choses, un peu bienveillant d'Alphabet qui vise à ouais, ou c'est ça, ou social, qui vise à protéger la vie privée, mais de protéger
l'expression, le droit d'expression.
C'est ça, le droit d'expression ou la capacité d'expression des journalistes en particulier ou même des activistes. Hein. Donc voilà.
Bon, c'est bien, c'est positif. Du coup, finalement, on finit sur une note positive, notre podcast. C'est cool, tu vois. On a parlé d'un peu de tout, des news, des nouveaux produits, du tactile, des nouveaux logiciels. On vous a prévenu, on vous a dit que la vie privée, c'était important, qu'il fallait être, comme je disais, avare de ces données et savoir les donner avec parcimonie. Moi, j'ai plus rien à rajouter sur ça. Enfin, on a déjà beaucoup parlé, peut-être un peu trop vont nous dire certains auditeurs, mais en tout cas, on voulait être assez complet sur ce podcast. Qu'en penses-tu, Thomas? On les laisse partir?
Je pense qu'on va terminer. Moi, je vais aller me coucher bientôt, et puis toi, je vais te laisser continuer ta journée.
Cloche la sonnée, vous pouvez partir les enfants.
C'est ça. Un petit coucou à tous les gens qui échangent avec nous via Telegram. J'avoue ne pas être aussi présent que Nico. Le décalage horaire n'arrête pas, mais bon, c'est un peu une excuse. J'avoue que je suis un peu dépassé par le flot de messages. J'ai un peu du mal à interagir, mais je vais essayer de faire un peu mieux que ça à l'avenir. Mais ouais, c'est vraiment cool de voir que tout le monde est actif et que tout le monde contribue et tout le monde discute. Donc on a une chouette communauté.
Vous pouvez interagir avec nous sur Telegram, sur le CKB Show. Hein, vous nous trouverez dans un canal qui s'appelle le CKB Show. Vous pouvez interagir avec nous sur Twitter, toujours CKB Show. Enfin, on a fait ça très compliqué. Hein. Sur le site internet, le CKB Show, .fr. Qu'il y a d'autres, c'est déjà pas mal déjà. Et puis je voulais remercier aussi les tipeurs. Donc, vous savez qu'on est financé uniquement par le financement participatif. Donc, je remercie aujourd'hui Bruno qui vient de nous laisser un type mensuel, donc il nous donne une petite somme tous les mois et je lui en remercie parce que ça fait un petit moment que personne n'était arrivé, donc merci à lui, je remercie Patricky, je remercie 22 à Épernon, enfin bref, je vous remercie tous de votre participation et c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce podcast et c'est grâce à vous que c'est devenu une petite réussite pour nous, même si ça n'a encore pas la portée qu'on imaginerait avoir d'ici quelques temps, mais en tout cas grâce à vous on arrive à faire des choses sympathique et on s'amuse au quotidien à vous aider, à vous divertir, à vous donner les informations utiles pour Chrome et Chrome OS. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Thomas?
Exactement. Non, non. Voilà. Je pense que c'est l'heure de terminer l'émission. Et puis ouais. Merci à tous. Merci si vous avez écouté jusqu'au bout. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'épisode.
Ciao. Allez, à tout le monde.
À
bientôt.
À bientôt.
The